Hello Fred.
Hello Alex.
Eh ben, je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode de TechSource. Voilà,
moi
où
aussi,
tu viens.
Je suis ravi d'être là.
Fred, tu viens nous vider ta stack, comme on dit aujourd'hui. Et pour que les gens apprennent à te connaître un peu mieux, on va rentrer tout de suite dans un petit vrai ou faux. Fred, tu es un spécialiste du Lean Startup en France. Vrai ou faux?
Vrai.
Depuis combien d'années?
Depuis 2011, donc 13 ans.
Ok, donc tout ce qui est MVP, proto, ça tu connais par cœur.
C'est mon truc, c'est ce qui me plaît.
C'est ton truc. À vrai ou faux, aujourd'hui, tu es plus focus sur la Gen AI et tout ce qui est intelligence artificielle.
Vrai, c'est ça qui nous permet de délivrer plus vite aussi. Donc c'était forcément la bonne chose à faire.
Ok. Vrai ou faux, ta boîte s'appelle 12 MVP parce qu'au début, tu proposais de développer des protos en 12 jours pour 12 000 euros, c'est vrai?
C'est ça. C'est vrai, et c'était plutôt pour les startups. Jusqu'au jour où on a rencontré un très gros cabinet de conseil qui nous a dit « Vous ne gagnez aucun contrat avec les grands groupes parce que vous n'êtes pas… on ne vous croit pas. » Donc on a transformé un petit peu 12 MVP. Et finalement, ça nous a beaucoup aidé. Donc maintenant, on travaille principalement avec des grands groupes, des grands comptes. Ouais.
Ok, super. Fred, j'ai très envie de savoir ce qu'il y a sur la home screen de ton iPhone. On a bien compris ton profil là, hein, donc tu es dans l'innovation, tu aides les grands comptes à innover, notamment sur l'élaboration de prototypes. Tu en veilles sur l'AI, la generative AI et ces sujets-là en ce moment. Mais à un niveau un peu plus personnel, voilà, j'aime bien savoir ce qu'ont les gens sur leur téléphone. Du coup, c'est un iPhone que tu as?
C'est un iPhone et j'ai peur que tu sois un petit peu déçu. Mais je te montrerai
ça. Je ne suis jamais déçu.
Alors, tu vois, il est très basique parce que finalement, la première page, je ne l'utilise pas tant que ça.
Ok. D'accord.
En fait, ce que j'ai envie de voir sur la première page rapidement, souvent, c'est la valeur des cryptos.
Ouais, je vois ça. Direct Binance et puis la valeur des cryptos. Ok.
C'est ça. C'est probablement l'app que je vais le plus ouvrir sur mon home screen, parce que les autres, ça sera des notifs, en fait. Que ça soit du WhatsApp, que ça soit du mail, que ça soit... Alors, j'ai pas de notifs sur le mail, mais WhatsApp ou Messenger, c'est souvent de la notif. Et puis, tu vois, j'ai un dossier investissement avec, tous les autres plateformes de trading à part Binance. Et puis, attends, je vois ça, ils l'ont appelé loisir, mais en fait, c'est le fourre-tout d'Apple, quoi. C'est toutes les apps que j'utilise jamais.
Oui, tu n'as même pas eu besoin de renommer le dossier, il a déjà été nommé comme ça.
Non, voilà, il fallait juste les mettre quelque part.
Et les quatre du bas, c'est quoi? Téléphone,
alors j'ai Slack.
Home, mail et Slack, old school.
Slack, parce que j'ai vraiment, à chaque projet, avec chaque client, on a quasiment un Slack différent. Donc je me retrouve parfois avec 7 ou 8 Slack à suivre en parallèle.
C'est intéressant.
Et c'est d'ailleurs probablement... C'est l'appli que je dois ouvrir le plus sur mon mobile, Slack. Et je ne sais pas si tu vois, mais du coup, parce que j'ai regardé les autres épisodes, Inbox Zero. Moi, je suis Inbox Zero, donc dès que j'ai un mail,
je
l'ouvre. Mais pour autant, il ne faut pas qu'il me dérange sur mes notifs. Je ne reçois pas de notifs comme quoi j'ai des mails. Je vais aller les fetcher à la main.
Ton client mail, c'est quoi? Ah, bah c'est mail. C'est mail, ouais, je le vois.
C'est mail. C'est mail et c'est mail sur Mac aussi, sur mon MacBook.
Donc, ouais, ça te suffit. Ouais. Et t'as un autre écran derrière? Enfin, t'as combien d'écrans total?
J'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4.
Tu les utilises ou c'est le bordel en fait?
C'est un bordel organisé. C'est-à-dire que quand je tourne la page, je sais exactement où cliquer.
D'accord.
Et il y a plein d'apps que j'utilise pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein d'apps qu'il faudrait que je retélécharge. Tu vois, Apple te dit. En fait, je les ai supprimées de ton téléphone, mais elles sont encore sur le home screen. C'est un bordel organisé. Le seul autre widget que j'ai, c'est Alexa pour allumer la lumière. Sinon,
donc tu es un peu connecté, ouais.
Eh ouais, je suis jeune papa, donc en fait, quand t'as le gamin dans les bras, c'est bien pratique de pouvoir lui dire allume la lumière que à 10% parce qu'il est en train de pleurer et je cherche la tétine, quoi.
ouais, ça c'est effectivement bien utile. Alors, j'ai pas utilisé encore, j'ai pas pensé à configurer mon Alexa comme ça pour les gosses, mais c'est. Bon, après, ils sont peut-être un peu plus vieux que les tiens, mais on arrive dans une ère connectée bien pratique. Alors, ok, donc ça, c'est la home screen de ton iPhone. Effectivement, c'est basique, mais j'allais dire rassure-toi. Et puis, si tu as écouté les autres épisodes, tu vois bien que en fait, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup d'invités qui ont qui recherchent l'efficience. Dans les... C'est un peu la tendance hein, que moi je note depuis 3 saisons. C'est que voilà, la plupart des invités recherchent vraiment à être efficace et ne pas être pollué mentalement par toutes les notifications et toutes les applications. Donc, je trouve que tu es plutôt dans la tendance et dans la norme. Voilà.
Ouais. Après, j'ai vu là, dans d'autres épisodes qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent en noir et blanc, etc. J'avoue que je n'ai pas essayé parce que ce n'est pas ça qui me dérange sur le téléphone. Moi, mon téléphone est constamment silencieux. J'ai jamais
par défaut,
aucune sonnerie. Ouais. Et donc, ce qui peut rendre folle ma conjointe, qui parfois doit m'appeler, etc. Mais il est constamment silencieux, ce qui veut dire que je passe à côté du hook en live, quoi. Tu vois, quand on essaye de m'attraper, généralement, on n'y arrive pas. Et donc, c'est moi qui rappelle, c'est moi qui renvoie des messages. Et parfois, je suis dans la liste où, en fait, j'ai 15 personnes à relancer. J'ai vu leurs messages, j'ai vu, mais je vais les relancer que bien plus tard. Et parfois, j'oublie. Et je crois que ça nous est arrivé justement pour l'organisation de ce podcast. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est que, en fait, je ne veux pas me faire déranger par mon téléphone. Je reste maître en faisant en sorte qu'il soit constamment silencieux.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est assez clivant. Enfin, c'est une technique un peu brute de décoffrage, mais qui apporte les meilleurs résultats finalement. La plupart du temps, les autres invités effectivement parlent de comment mettre l'iPhone en noir et blanc ou de réduire les notifs ou alors d'utiliser des modes concentration. Et t'en as d'autres, des techniques comme ça, détox un peu, ou c'est ta principale technique aujourd'hui pour rester
Franchement, c'est ma principale technique parce qu'elle gère franchement tous les use cases. Peut-être un peu de manière un peu trop brutale parce qu'encore une fois, ce que je te dis, c'est quand ma conjointe essaye de me joindre, elle n'y arrive pas toujours. Et en fait, la seule technique qu'elle a et qui est très intelligente, c'est qu'elle m'appelle sur WhatsApp parce que WhatsApp, je l'ai sur mon Mac. Et comme je passe 90% de ma journée devant mon Mac, en fait, j'ai la notif WhatsApp sur le Mac. Mais le téléphone, il est dans la poche. Le téléphone, il est sur le bureau en train de charger. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. J'en vois pas des fusées. Je ne suis pas médecin. Donc, il y a un moment donné, tout peut se gérer en asynchrone. Il y a un problème sur un serveur. Ça peut être réglé un quart d'heure ou 20 minutes après et pas forcément dans l'immédiat. De toute façon, ça ne fait pas partie de mon job. Donc, j'ai rien d'urgent, en fait. Pour moi, il n'y a rien d'urgent à part le petit à la crèche, quoi. Et la crèche est bien informée d'appeler toujours maman en premier. Et je crois que c'est dans leurs habitudes de base. Donc, au final, c'est vraiment la seule détox on va dire que j'ai de ce côté-là. Par contre, je passe quand même beaucoup de temps sur mon téléphone.
Ouais, d'accord. Mais sur Slack, du coup, pareil, t'as pas la notif qui te saute au visage sur cet outil-là.
C'est 10
minutes, tous les 15 minutes. T'as le petit, tu sais combien.
Et du coup, je sais aussi que pour ça, elle est un peu mal foutue sur iOS. C'est, tu sais, comme on a plein de workspaces différents parce qu'on a plein de clients différents, je me retrouve à devoir switcher de workspace en workspace parfois pour savoir laquelle est là où on a discuté. Mais bon, c'est un détail. Et finalement, à chaque fois, c'est rarement un message. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais d'urgence, quoi. Il faut arrêter. Nos métiers, il n'y a pas d'urgence, quoi. Il n'y a personne qui va dépendre sa vie de moi. Et même, je considère le petit à la crèche. Je suis à 5 minutes à pied de la crèche. Donc, même s'ils arrivent à me reach 10 minutes après, j'arrive plus vite que 95% des parents. Et finalement, il n'y a pas d'urgence parce que je considère que la crèche est censée gérer les urgences de mon fils, tu vois. Voilà. C'est vraiment mon trick pour ne pas être dépendant du téléphone par rapport aux autres. C'est à moi de choisir mon temps, en fait.
C'est une technique que je n'avais pas encore vue, mais finalement, si t'es dispo sur WhatsApp... Après, je pense que tu peux configurer des numéros exceptionnels, faire des exceptions en disant je reçois aucun coup de fil de personne sauf de ce numéro-là. Mais bon, après, ça demande de...
En fait, je l'ai fait pour les numéros importants. Donc, ma conjointe est dedans, mes proches sont dedans. Mais en fait, ce que je fais, c'est qu'à la fois, je coupe le son sur le côté directement sur le bouton et je coupe aussi le volume à zéro. Et donc, dans ce use case-là, bah, ça ne marche pas. Donc, en fait, ça marche si tu as encore du volume et que tu coupes le téléphone sur le bouton-là. Mais sinon, ça ne marche pas. Donc, en fait, ils n'arrivent quand même pas à me joindre. Après, bon, j'ai la chance d'être quand même entrepreneur, d'avoir quand même pas mal de temps. Donc, je suis constamment en alerte, en tout cas pour les proches, vu qu'on est tous les deux en télétravail, vu que la crèche elle est à 5 minutes, vu que plein de choses, fait que je loupe rien. Globalement, je loupe rien d'important.
Et du coup, t'es entrepreneur, t'es papa, dans ton temps perso, est-ce que les écrans, ça représente quelque chose d'important, ou est-ce que le soir, vous déconnectez complètement? C'est quoi ta position sur ça?
Bah, j'aimerais bien, mais non, je suis... En fait, je suis super curieux. Donc, je suis tout le temps... Dès que je me pose une question, il faut que j'aille chercher. Je suis très souvent sur mon téléphone. C'est un très mauvais exemple pour mon fils. Mais il y a quand même... tu vois, il a 14 mois. Il a 14 mois, il a jamais vu une télé, un écran... tu vois, avec nous, ou en tout cas plus de 5 minutes, parce qu'on était dans un endroit où il y avait un panneau qui diffusait de la pub. Mais sinon, on fait en sorte que lui n'ait pas accès aux écrans. Donc nous, ça nous limite beaucoup tant que lui, il est réveillé. Il dort peu, donc il est souvent réveillé, donc peu d'écran. Mais par contre, moi, je suis beaucoup sur mon téléphone. Et en fait, je suis principalement, et ça va être, je pense, le gros sujet du meeting d'aujourd'hui, là. C'est du podcast, en tout cas. C'est, moi, je suis beaucoup sur Reddit. Je suis beaucoup sur Reddit pour le perso. Je suis beaucoup sur Reddit pour ma curiosité, pour le business. Je passe je ne sais combien d'heures sur Reddit, en fait, par jour.
Peut-être, bon, parfaite transition. 4 heures, ok. Non, mais c'est une source d'information qui est inépuisable, Reddit. C'est le new Twitter. Enfin, c'est devenu, malgré lui, j'imagine, le new Twitter. Mais... Alors, bah, sur tes lectures, justement, creusons un peu le sujet. L'idée, c'est de voir un peu ce que tu lis, ou comment tu fais ta veille, et est-ce qu'il y a des bouquins qui ont un peu façonné ta pensée. Donc, sur la veille, donc tu utilises abondamment Reddit 4 heures par jour. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'est Reddit, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cet outil.
Yes. Reddit, c'est un vieux forum américain qui est en fait un forum de forums. Donc, si on retourne dans les années 2005-2006, on se retrouve avec le forum pour l'équipe de plongée, le forum pour ceux qui veulent apprendre sur le cinéma, le forum technique sur tel ou tel sujet. Et en fait, c'est complexe à gérer parce que, je ne sais pas si tu as connu ça à l'époque, mais il y avait des solutions type PHPBB, donc tu pouvais monter ton propre forum, etc.
Ouais.
Donc sur chacun des forums, tu devais avoir un login, un mot de passe, t'en rappeler, être alerté, mettre les bonnes notifications à droite, à gauche, bref. C'était un peu une horreur et tu étais enfermé dans un carcan. Si c'était le forum sur le cinéma, bah, tu faisais tu parlais que de cinéma. Et puis, bon, parfois, tu avais des espaces libres où tu pouvais parler un peu de tout, mais voilà. Reddit sont arrivés et ils ont dit, en fait, on va faire un forum de forums. Donc, chacun va pouvoir créer des sous-forums sur Reddit, qu'on appelle des sub-Reddits, des sous-Reddits. Et de là, bah, n'importe qui a un compte Reddit peut venir dans cette communauté et discuter. Et tu n'es même pas obligé de t'abonner. Donc, tu n'es pas obligé de faire partie de la communauté pour lire ou partager. Et donc, Reddit, c'est devenu une source d'inspiration incroyable pour moi parce que tu as à la fois des subreddits super techniques sur, je ne sais pas, ça va être des développeurs qui vont te parler de nouveaux trucs qu'ils font. Tu vas avoir des subreddits un peu cute, tu vois, avec des petits chiens trop mignons qui courent dans l'herbe. Et puis, tu vas avoir des subreddits un peu hard, du genre...
sur les cryptos ou...
Ouais, alors ça, je le mets dans les techniques. Non, le hard, pour moi, c'est la vie des gens. T'en as plusieurs, c'est Ask Reddit, Ask Men, Ask Woman, ce genre de subreddit où, en fait, les gens viennent poser des questions et qui sont parfois des questions, alors, tu pourrais considérer comme bêtes. Et puis, quand tu commences à lire les commentaires, tu vois des points de vue auxquels tu n'aurais jamais pensé. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans Reddit, c'est que les gens sont encore anonymes de l'autre côté. On n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur Facebook. Les gens, sont anonymes et en même temps, on est, bah, du coup, ils s'expriment plus, ils s'ouvrent plus et donc ils te partagent des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et par exemple, rejoindre un sub qui est pas forcément. Alors, j'ai pas vraiment de couleur politique, mais bon, bref, je me place dans le spectre
Ouais, il y a un peu de
quelque
politique, ouais, des
part.
fois. Mmh.
Et aller lire le subreddit des autres partis politiques, ben, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu te dis, tiens, la même news,
Ouais.
comment elle est partagée, comment elle est exploitée aussi, parce que tu te rends compte hein, des gens, de comment ils tournent les phrases, etc. Ben, je
Et
trouve ça super intéressant.
sur ta veille pro, parce qu'on comprend que sur Reddit, il y a quand même pas mal de thèmes un peu mainstream, sport, gaming, tout ça, mais sur ta veille pro, est-ce qu'on trouve des choses aussi intéressantes que sur X, même si sur X, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'experts, d'analystes qui se sont barrés, mais toi, tu vois, tu es dans le B2B, la Gen AI, on peut faire une bonne veille sur ces sujets sur Reddit?
Ouais, en fait, je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours considéré Reddit comme un préquel, quoi, de tous les autres. C'est-à-dire que tu vois quelque chose sur Reddit qui finit par aller sur X.
D'accord, ça commence sur Reddit, ouais, ok.
Ouais, enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Peut-être que je suis biaisé. Mais ouais, il y a beaucoup de. Tu vois, tu vas avoir R Entrepreneur. Donc, R slash Entrepreneur. Tu vas avoir Runway ML, qui est un outil pour faire des. Alors, je suis pas sûr que tu aies besoin de mettre R, mais ouais, voilà. Tu vois, tu as 3,1 millions de membres d'entrepreneurs, tu vois. Et il n'y a pas 3 jours, il y a un gars
Hyper
qui a
intéressant.
posté une idée. Et
Ouais.
cette idée, je l'ai trouvée super intelligente. Bon, avec un peu d'expérience, je me suis dit, moi, je ne vais pas me lancer là-dessus. J'ai transféré l'idée à un jeune que j'accompagne. Et ils sont en
D'accord.
train d'essayer de craquer le problème, tu vois. Et donc, en
Super.
fait, tu détectes des choses super rapidement si tu es. On va dire si tu es curieux, quoi. Si tu cherches correctement, tu tombes sur plein de trucs. Et par exemple, sur Reddit, ce que tu vois souvent, c'est des ingénieurs qui vont faire. Tiens, je me rappelle d'un use case, c'était des mecs qui avaient configuré des Gen AI pour simuler un studio de jeux de développement. De développement de jeux, pardon.
D'accord.
Et en fait, pendant. Ils l'avaient fait tourner, je crois, 24 heures, ça leur avait coûté 1,80 $ en OpenAI, quoi. Et les bots avaient commencé à sortir un jeu, quoi. Et c'est rigolo, tu vois, c'est
Ah, c'est des bots qui
sympa.
ont réalisé un jeu. D'accord, c'est
Ouais,
marrant.
c'est la Gen AI, quoi, qui ont configuré et créé un jeu, qui n'était pas terrible le jeu, mais bon, dans l'idée, c'était possible, c'est rigolo, petite expérimentation. Et il a fallu peut-être 3-4 jours pour que je finisse par le voir sur X, en fait. Et tu sais, c'est un peu la rengaine. Simpson l'a déjà fait, quoi. Les Simpsons l'ont déjà fait. Bah, c'est un peu Reddit. Je l'ai déjà vu sur Reddit, quoi. C'est la phrase que je dis tout le
D'accord.
temps à ma conjointe. Oui, j'ai déjà vu sur Reddit.
Ah oui,
Donc,
d'accord.
elle est un peu frustrée. Bah, c'est pour ça que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Reddit, ouais. Et du coup, bah, ça te permet aussi de switcher. Enfin, j'ai un cerveau qui n'est pas très concentré, on va dire. Qui est assez créatif alors que je suis un ingénieur, donc tu vois, ça colle un peu moyennement. Et en fait, Reddit, ça m'aide à la fois à me dire, tiens, bah, je viens de lire un thread super long sur la Gen AI pour XYZ, parce que tu as des chercheurs en Chine, tu as des chercheurs aux US, tu as des chercheurs en Europe qui ont écrit tel papier.
Ouais.
Et en fait, des fois, j'ai pas envie de me lire les papiers, j'ai pas le temps, je suis pas sûr de tout comprendre, etc. Donc tu as des gens qui vont vulgariser ça. Et ça, c'est super. Et puis l'étape d'après, c'est ben, en fait, je vais voir passer un truc sur un subreddit qui a rien à voir dans la politique, en géopolitique. Je sais pas, tu vois, en ce moment-là, les grands trucs, c'est Biden et Trump. Et en fait, tu vois, tu arrives à regrouper des informations, de faire des liens logiques que tu n'aurais pas pu faire si tu lisais que le Figaro. Tu vois. Ou alors, il faudrait que tu lises 15, 20, 30 journaux différents pour pouvoir arriver à faire ces logiques-là. Et moi, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Je trouve que Reddit fait correctement ce job-là. Et l'avantage de Reddit, en tout cas dans la version que j'ai moi, c'est que on n'est pas trop biaisé. C'est-à-dire qu'il va pas forcément me reproposer du contenu parce que j'ai aimé d'autres contenus. C'est ça que j'aime sur Reddit, sur l'algo qu'ils ont pour le moment. Alors que quand tu es sur un Facebook ou un Twitter, bah, tu es vite enfermé, quoi.
Et les curateurs qui postent sur Reddit, enfin en tout cas pas forcément des curateurs, mais les profils, il y a un peu de tout. On sait qui sont derrière les profils, c'est des experts, pour valider un peu la validité des infos qui sont partagées. Comment tu...
Il y a un peu de tout. Quand une info m'intéresse vraiment, je vais aller creuser en profondeur parce que une info qui a vraiment de la valeur, c'est une info qui est sourcée, généralement.
Ouais, ouais.
Donc les gens sur Reddit le comprennent aussi. Les gens le Reddit. Je ne sais pas s'ils le comprennent, mais en tout cas, moi, je fais cette distinction-là. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller creuser, je vais regarder si c'est vrai. Et donc, tu as aussi bien, tu vois, tu as, je sais pas, il y a ce qu'ils appellent les AMA, Ask Me Anything. Et donc, ça peut être, moi, voilà, je suis entrepreneur, expert Lean Startup, demandez-moi ce que vous voulez. Et puis, on lance un trade. Et puis, à côté de moi, tu as un Obama, tu as un Bill Gates qui vient faire des AMA. Et donc, tu peux envoyer un message à Bill Gates, quoi. Alors, est-ce qu'il va le lire, est-ce qu'il va te répondre, etc. Pas toujours. Mais parfois, tu as envie de lui poser la question, quand est-ce que sort le remake de Civilization ou je ne sais quoi, et il va te répondre parce que c'est un sujet qui il a envie d'en discuter. Donc tu as des occasions comme ça que tu n'as pas toujours, et je ne me vois pas demain envoyer un mail ou un tweet à J.K. Rowling pour lui poser une question sur Harry Potter. Par contre, elle vient faire un Ask Me Anything sur Reddit, je le fais, tu vois. Donc c'est voilà, tu as plein de choses différentes. Donc tu as les experts reconnus, alors est-ce qu'ils sont experts ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, tu as les gens connus. Tu as des gens qui sont inconnus mais qui sont très, très pertinents sur leur sujet. Et souvent, ça, c'est les chercheurs. C'est la team de chercheurs, les mecs que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas le nom, qui vont peut-être gagner dans 15 ans le prix Nobel de je ne sais quoi, mais en attendant, toi, tu ne les connais pas. Et puis, tu es incapable de comprendre que leur découverte, elle est importante, jusqu'à ce que tu finisses par leur demander. Mais pourquoi, tu vois, pourquoi ? Vulgarise-moi ça, quoi. Je fais pas d'astrophysique. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et là, le gars va t'expliquer qu'ils ont fait une découverte incroyable qui leur permet de faire X, Y, Z. Et ce X, Y, Z, je le trouve passionnant parce que quelque chose qui me touche beaucoup depuis qu'on a ouvert Toll MVP avec mon associé, c'est de dire, il y a des découvertes qui sont faites dans des domaines. Je te dis une bêtise, mais tu as, je ne sais pas, par exemple, l'industrie pétrolière, les grands méchants. Ils ont découvert une nouvelle... Ils ont créé une nouvelle huile qui leur permet de creuser plus en profondeur. Okay. Et cette huile, elle résiste à l'eau, elle résiste à plein de choses, etc. Et tu te dis, bon, bah, ok, les mecs, ils avaient de l'argent, ils ont dépensé, ils ont réglé un problème chez eux. Bon, déjà, moi, ça m'intéresse de voir comment les gens règlent leurs problèmes. Mais en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que cette huile-là, bah, elle peut peut-être être utilisée en pharmaceutique. Que cette huile, elle peut être utilisée dans plein de use cases qui fait que... Bah, tu vas diminuer les fuites d'eau sur les tuiles des bâtiments. J'en sais rien, tu vois, je dis une bêtise. Mais en fait, quand tu creuses comme ça, c'est ça que je trouve super impressionnant, c'est que tu as des experts dans un domaine qui ne rencontrent pas les experts dans d'autres domaines. Okay.
D'accord.
Et
un croisement Reddit, intéressant.
Tu peux ailleurs. Faire ces liens-là. Quoi.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que quand tu regardes aujourd'hui où sont les analystes et où est-ce qu'ils prennent la parole, les experts, ceux qui ont un peu de leadership... finalement, si tu veux les accéder un peu à leur véritable opinion, conviction, tout ça, c'est pas trop sur LinkedIn où c'est assez policé. C'est de moins en moins sur Twitter parce que du coup tout le monde n'est pas convaincu par la démarche d'Elon Musk. Et donc du coup, ils ont plus vraiment de place où s'exprimer, si ce n'est d'avoir eux-mêmes un blog ou une newsletter, qui est une démarche quand même un peu chronophage que tout le monde fait pas, en tout cas que tous les analystes font pas. Et donc du coup, D'après ce que j'entends, c'est qu'il faut peut-être aller jeter un coup d'œil à Reddit, parce que probablement qu'ils sont là-bas, en fait. C'est ça que tu es en train de dire.
Bah, je ne sais pas s'ils sont là-bas, mais si tu veux, Reddit, pour moi... Enfin, le problème de X Twitter pendant très longtemps, ça a été quand même que c'était un format court. Donc, tu ne peux pas creuser les sujets en profondeur. Et moi, je n'ai jamais trop adhéré à Twitter X. Je n'ai jamais trop passé de temps dessus. Je crois que j'ai un compte, mais tu vois, je n'ai pas dû l'ouvrir depuis un long moment. Et si tu veux, je considère Reddit un peu, ça serait l'équivalent de Thinkerview dans le paysage audiovisuel, tu vois. Thinkerview, où tu vas faire des entretiens de 2h, 2h30 avec des mecs qui connaissent leur sujet, avec des questions pas toujours forcément bien posées, mais en tout cas, bref, tu vas creuser un peu des choses en profondeur avec les gens, avec les experts, et c'est ça qui est super intéressant versus la consommation live, rapide, tu vois. Pour moi, Twitter, c'est l'équivalent de TikTok, quoi. Tu vois, Il faut que tu ingurgites, et puis c'est pas sourcé. Et puis en fait, tu as quelques mecs qui sont intelligents et donc que tu peux détecter, mais il faut que toi tu fasses l'effort d'aller les détecter et donc que tu les suives. Et c'est pas parce qu'un mec a dit quelque chose d'intelligent le lundi que le mercredi c'est aussi intelligent. Et donc, du coup, c'est super frustrant. Versus Reddit, en fait, tu connais pas les bonhommes et tu t'en fous. Tu viens sur le subreddit, tu parles d'un sujet qui est R Startups. Et dans R Startups, tu vas avoir un mec qui va intervenir et qui va te faire un long pavé sur comment il a échoué sa boîte. Et puis un autre qui va t'expliquer comment lui, il a fait pour recruter 1000 personnes en 2 ans, etc., etc. Et donc, ça te permet vraiment de mixer. Vraiment de
Donc
mixer et te dire, tu peux être intelligent à un instant T et puis le lendemain être con, quoi.
les trois subreddits que tu conseillerais sur tout ce qui est innovation, donc il y a R entrepreneur, il y a R startup
Ouais, alors pour l'innovation, tu vois, R Startup, c'est pas forcément. Non, moi, il y en a deux que j'aime beaucoup qui sont Eli5, donc E-L-I-5, ça veut dire Explain Like I'm 5.
Ah, ok.
Ça vient d'une série qui s'appelle The Office. À un moment donné, le patron, il demande à son comptable,
Ouais, je vois.
explique-moi comme si j'avais 5 ans. Donc, c'est très drôle. Et Eli5, en fait, c'est des experts qui sont capables de t'expliquer n'importe quoi. Donc, je ne sais pas, sur Eli5, tu as une question. Pourquoi les étoiles explosent en fin de vie? Bon, bah, tu peux demander ça à un expert, un scientifique, un machin sur Twitter. Le mec, il va sûrement te sortir quelque chose de très poussé. C'est bien. Et puis, en fait, tu seras tellement loin de comprendre ce qu'il te dit que ça ne va pas t'aider tant que ça, quoi. Versus Eli5, le gars, bah, tu vas lui demander de vulgariser, 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 comme
Comme
si
si
tu
t'as,
avais 5 ans.
comme si t'avais 5 ans, ouais, d'accord.
Et franchement, bah, ça fait que tu apportes des sujets qui sont super intéressants. Et d'ailleurs, je suis trop content que ça existe sur Reddit, parce que du coup, les Gen AI se sont probablement bien inspirés de Reddit sur plein de choses. Et donc, du coup, tu peux faire des Eli5 avec ton ChatGPT, ton Gemini, ton Anthropique, enfin Claude. Tu peux lui demander, explique-moi comme si j'avais 5 ans ce sujet-là, quoi.
Ah oui, parce
Et
qu'ils
je
sont
trouve ça trop bien.
nourris de Reddit et donc ils ont déjà le corpus de texte
Ils sont
et de
nourris.
knowledge.
En fait, ils comprennent ce que c'est que explique-moi comme si j'avais 5 ans, et puis ils comprennent Wikipédia, la page sans fin, quoi. Et
Ouais, c'est
donc,
hyper
ils arrivent à
intéressant.
faire ce mix-là. Et je trouve ça formidable que ça existe, quoi.
Donc,
Parce qu'il y a
Eli5,
plein de
tu dis
sujets que je
ok,
préfère.
d'accord. Ok.
Et le dernier, ça serait Damn That Interesting. C'est un subreddit où tu vas voir des choses qui sont intéressantes. Ouais, voilà, c'est waouh, c'est
Ouais.
intéressant.
Damn.
Et donc, tu as de tout là-dedans. Tu
Ouais.
as des mecs qui vont. Là, je suis en train, tu vois, je l'ai ouvert, je suis en train de voir. Tu as un, comment on dit en français? Un monk, un moine.
Un
Un
moine, ouais.
moine qui grimpe. Pieds nus, une montagne sans fin, alors qu'à côté, tu as des touristes qui sont là avec des cordes et qui galèrent.
Ah oui, je vois.
Et puis à côté de ça, tu vas avoir un gars qui va juste trouver, enfin, qui va te montrer comment tu fais pour nettoyer une montre en profondeur.
D'accord.
Et donc, c'est con, mais en fait, tu apprends vraiment plein de choses différentes. Et j'adore ça parce que, en fait, ça m'inspire beaucoup. Il y a plein de choses de la vie qui m'inspire, tu vois. Tiens, je crois que tu t'es passé devant rapidement, mais est-ce que tu as déjà vu, tu sais, les machines pour couper du bois que les menuisiers pourraient utiliser,
Ouais.
qui s'arrêtent directement
Sur la
quand...
peau?
Ouais, sur la peau.
Désolé, j'avais vu.
C'est un truc incroyable, je connaissais pas, etc. Et puis, une fois que tu as vu, tu te dis, oh, c'est super bien, mais comment ça marche? Et en
Ouais.
fait, tu as toute une vidéo où il va t'expliquer. C'est souvent des vidéos de 1-2 minutes, hein, on n'est pas sur des reportages d'un quart d'heure, qui va t'expliquer comment ça fonctionne. Et je trouve ça super cool, quoi, d'apprendre comment ça fonctionne, même si demain, j'avais pas prévu de me couper un doigt à la scie sauteuse dans une menuiserie. Mais juste de savoir que c'est possible et que ça existe, tu te dis, mais en fait, ça, on pourrait peut-être l'utiliser dans d'autres choses.
Là
Et.
où je trouve le Reddit hyper intéressant et grâce à tes explications, là, je comprends pourquoi TikTok aujourd'hui, pourquoi X, enfin, en tout cas, pourquoi le contenu sur X il est tel qu'il est. Parce que quand tu regardes ça, là, ton subreddit sur Damn That Interesting, finalement, c'est ce que tu retrouves de manière complètement désorganisée et chaotique sur un TikTok, tu vois, ou sur un feed Twitter. Donc en fait, Reddit, c'est un peu la source d'inspi, quoi, de beaucoup, beaucoup de choses, de beaucoup de créateurs, quoi.
Ah ben bah, probablement. Et puis t'as y a des vraiment t'as tellement de contenu qui vient du monde entier que tu peux facilement te créer une chaîne. D'ailleurs, il y en a beaucoup, des chaînes TikTok ou des chaînes à l'époque Vine, qui en fait
Ah oui,
s'inspiraient
c'était
du
bien
contenu
Vine,
de
c'était sympa.
qui s'inspiraient du contenu de Reddit. Et donc juste avec le contenu des autres, tu peux le reposter sur une autre plateforme, et puis tu as des mecs qui font 3, 4, 5 millions de vues par mois en faisant ça, tu vois. Assez facilement, parce que c'est du contenu de qualité que les gens ne savent pas aller chercher, parce que c'est du contenu très anglophone quand même. Donc mes parents qui ne parlent pas anglais n'y ont pas du tout accès. Donc demain je
C'est
prends
canadien, c'est ça au départ, hein. C'est une plateforme canadienne.
ouais, c'est possible, j'avoue que je sais pas. En tout cas maintenant ils sont américains
Ouais.
depuis un long moment, mais oui, t'as... ouais, c'est voilà. Moi ce que j'aime dans Reddit, c'est que t'as tout en fait,
Ok,
c'est
super
un
pour
peu
les
le buffet à
signaux
volonté,
faibles.
quoi.
Ouais,
Ouais.
c'est ça ce que j'allais dire, buffet à volonté. En termes de d'autres sources de veille, est-ce que tu consommes d'autres. Enfin, j'imagine que tu consommes d'autres
Ouais.
blogs, newsletters, éventuellement des sites pour rester en veille.
Ouais, alors bah moi c'est mon côté très start-upper. Je passe beaucoup de temps, enfà je passe tous les jours au moins une fois sur Product Hunt. Product
Ah,
Hunt, c'est
Product
un
Hunt,
site
ouais.
où tu peux lister, tu peux faire ton lancement de projet, tu vois. T'as fait un outil, t'as fait quelque chose, et puis tu peux le montrer au monde sur Product Hunt. Et en fait, je l'aime beaucoup, Product Hunt, parce que ça m'inspire beaucoup de voir ce que les autres font, de voir des choses qui sont faites mais mal faites, de voir des choses qui sont faites auxquelles j'aurais jamais pensé dans ce carcan que peut être ouais, Twitter, encore une fois, bloqué.
Donc
Mais
t'es toujours un peu sur Product Hunt, tu fais partie des gens qui
j'y vais tous les
des
jours.
OG qui restent un peu ouais.
Ouais, mais j'y vais tous les jours, tu vois. Mais comme Reddit, j'y vais tous les jours. Mais je participe très peu, je commente très peu, je like très peu. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que je vois passer les copains dessus. Donc, tu vois, des fois, c'est des gens à qui j'ai pas parlé depuis 5 ans, c'est toujours des copains pour moi. Mais du coup, tiens, Typeframe, par exemple, si tu remontes un tout petit peu, Typeframe, là, voilà, c'est un copain qui a racheté ce SaaS il y a quelques mois et qui le fait décoller. Thibaut. Et donc je pense à eux, et donc bah tu vois, ça me permet aussi de refaire des mises en relation, de relancer des contacts, etc.
Alors pour ceux qui nous écoutent et qui voudront en savoir plus sur Product Hunt, et tu peux peut-être nous décrire ça, mais enfin c'est un must absolu quoi dans la tech. Ça a été en tout cas une référence, un site référence absolu pour tous ceux qui étaient dans le milieu des startups. Et aujourd'hui un peu moins, mais effectivement pour faire une veille produit ou même d'avoir cette capacité à détecter des signaux faibles. C'est un site qui est majeur. Je trouve qu'il a un peu perdu de sa superbe depuis 2-3 ans. Il n'est plus aussi lu ou recommandé qu'avant. Peut-être que la communauté s'est un peu éclatée sur d'autres forums de discussion, des Discords, je sais pas trop, mais ça reste une bible, quoi. Hein.
Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Product Hunt, c'est que tu croises aussi bien des grosses boîtes,
Ouais.
Microsoft qui va t'annoncer un nouveau LLM,
Ouais.
que tes copains qui ont fait un truc dans leur coin, quoi. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que tu as toute l'intelligence. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être mon prisme, mais tu as toute l'intelligence des petits makers comme nous, quoi. Tu vois. Deux ingés peuvent te faire un truc incroyable et te transformer une boîte en billion dollar company. Et ça, tu les. Enfin, de toute façon, ils vont forcément à un moment donné passer sur Product Hunt. Tu as de grandes chances pour qu'ils passent sur Product Hunt parce que ce n'est pas des commerciaux, ils ne savent pas faire du marketing. Et il y a un moment donné, le format Product Hunt, c'est trois photos, un petit texte et t'expliques ton produit, quoi. Et donc tu vois ceux qui sont entraînés, ceux qui sortent d'école de commerce, tu vois. Et puis tu vois ceux qui sont moins bons. Pour autant, la solution qui est créée derrière, elle est peut-être excellente. Ou en tout cas, l'idée de le postulat de base, il est excellent. Donc ça m'inspire beaucoup. Et en fait, ce que je fais, c'est pas tellement les cinq premières, tu vois, que je regarde. En fait, chaque jour, tu peux lister je ne sais combien de boîtes. Donc là, c'est le top semaine sur lequel tu es. Mais si tu remontes, là, lundi, je sais pas, tu vois, j'ai pas encore regardé, mais... ça c'était hier. Voilà, tu peux voir le top de la journée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tous les projets qui sont cachés. Tu vois, je veux pas voir
Ouais,
que le
bien
top
sûr. Ouais.
5, je veux voir les autres en dessous. Et ils ont instauré un truc un peu nouveau qu'il n'y avait pas il y a un an, c'est que maintenant, les votes, donc avant, c'était du vote en live. Donc chacun arrive, like le projet, etc. Et donc ça monte ou ça descend. Maintenant,
Ouais.
ils te laissent, je crois, 3, 4, 5 heures. Je ne sais pas exactement, mais
Pour modifier
ils te
ton
laissent un
vote.
delta. Ouais, en fait, donc les votes sont cachés. Les votes sont cachés,
D'accord.
donc tout le monde vote pour le produit, et donc t'es pas influencé par, tiens, bah, je vais continuer de upvoter le premier, tu vois. Ce qui fait qu'il y a des produits
Ah, d'accord,
qui
t'as
auraient
un
pas
petit.
gagné, qui commencent à monter un petit peu.
C'est très intéressant, on a un petit asynchrone, un petit délai asynchrone là,
Ouais, et
pour
je sais pas
éviter.
combien c'est, mais c'est 6 heures, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est nous, en France, je crois que c'est à partir de 11 heures où on commence à voir les notes.
Ouais, mais ce qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs par rapport à la veille en général et pourquoi Product Hunt est intéressant, c'est parce que c'est un site qui fait non pas juste de la curation, mais de la surcuration. C'est-à-dire en gros, enfin, il y a 10 ans, quand ça a été lancé, c'était une liste de la liste des produits qu'on voyait du jour. Donc, il y avait une dizaine de produits qui étaient présentés. C'était une sélection d'une douzaine de personnes, hein, si j'ai bonne mémoire, qui était l'équipe initiale, une bande de potes dans la tech, voilà, qui faisait une veille sur les meilleurs produits cool qu'ils trouvaient du moment, quoi. Et donc après, cette liste-là, qui était au départ je crois au départ que c'était une newsletter, ils l'ont rendue interactive pour qu'elle puisse s'enrichir. Donc on parle non pas de curation, mais de surcuration. Ça veut dire que le signal, en termes de pertinence et de signal faible ou de signal tout simplement par rapport à toute l'info qu'on peut voir dans la tech, est hyper fort. C'est hyper quali, quoi. Donc en fin de journée US. Enfin, vous prenez les produits les plus upvotés, vous y allez les yeux fermés, vous découvrez à chaque fois une pépite, quoi.
Bah, clique dessus, je crois que tu peux voir, parce que là, tu as 474 votes positifs, tu vois. Mais si
Ouais.
tu ouvres le lien, non, alors, ouais, là, directement sur le titre, normalement, je crois que tu peux voir le nombre de vues.
Sur le lien, sur
Ouais,
l'allié.
faut que tu ouvres la modale, là.
Ok. Et après, t'as le vu maintenant? Ah, je savais pas.
Et il me semble que tu as le nombre de vues, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps.
D'accord. Ils ont dû rajouter.
Et donc,
Il y a
du coup,
tout. Ouais, c'est
tu te rends
l'upvote.
compte que c'est à peu près un fois 30 par rapport au nombre de likes.
Ah oui,
Donc,
d'accord. Oui.
tu
Je vois ce
as
que tu
1000
veux dire.
likes, tu as 30 000 vues, et finalement,
Ouais.
c'est assez peu, sauf que
Ouais.
c'est 30 000 vues de mecs qui sont plutôt quali,
C'est
je
ça.
pense.
T'as un reach qui est incroyablement quali, quoi. Ouais.
Ouais, et du coup, je trouve ça intéressant. Et parfois, tu vois des produits où... Parce que, tu vois, des fois, je regarde la liste et puis je les ouvre pas tous, hein, clairement. Donc, en fait, je
Oui,
ne
bah
compte
mais.
pas dans les vues dedans. Mais quand j'en ouvre un, souvent, c'est que je le trouve super intéressant. Et ça arrive peut-être, je sais pas, je dois en ouvrir maximum un par jour, quoi. Tu vois.
Et
Donc,
alors,
j'ouvre la liste, mais j'en ouvre qu'un par jour, quoi.
moi, je l'utilise plus comme source de veille, c'est une erreur. Mais typiquement, alors moi, j'ai une technique pour la veille. On en discutait avec Damien Douani sur un précédent épisode. Et on a une habitude avec Damien, mais avec d'autres veilleurs, c'est peut-être ton cas aussi. C'est la technique de l'écureuil, c'est-à-dire tu sauvegardes dans des onglets, là où tu trouves en fait l'info, tu caches ta noisette directement au trou le plus proche. Donc si je trouve des choses sympas sur Twitter, je fais dans le signet. Et voilà, je me suis pas connecté depuis longtemps sur le Hunt, mais de mémoire, c'est ce que je faisais et je reprenais tous les signets dans lesquels j'avais partagé des choses. Et c'était à chaque fois une pépite, quoi. Il y avait rarement de choses achetées, quoi, à la fin.
Ouais, alors moi je fais ça un peu, mais je suis complètement désorganisé. Encore une fois, c'est mon cerveau créatif. Tu vas voir, c'est très bizarre, mais j'ai beaucoup de copains qui utilisent Notion ou qui vont utiliser
Ouais.
plein d'outils comme ça pour sauvegarder leurs bookmarks. Moi, mes bookmarks, je les ai directement dans mon Chrome, comme un cochon, on va dire. Ce qui fait que ça m'arrive de galérer parfois à retrouver un site ou retrouver une info. Et en même temps, je me dis, bah, si je l'ai perdu, c'est que c'était pas si important. En fait, tu vois, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, bah, tant pis, c'est la vie, tu vois. Genre, si je le retrouve pas, c'est que
Ouais.
soit ils ont pas explosé au moment où je m'étais dit que, soit en fait, ils règlent pas vraiment le problème parce qu'avec 4-5 mots-clés sur Google, si je les retrouve pas, c'est qu'ils doivent être nuls en marketing ou je ne sais quoi. Et donc, je pousse pas plus loin. Donc, je suis un peu un abandonnationniste comme ça, tu vois. J'abandonne pas mal les choses. A contrario, j'utilise beaucoup enfin, comment dire, les applis que j'ai accessibles partout. Tu vois, tout à l'heure, quand on discutait, c'est pas Gmail, c'est Mail que j'ai sur mon téléphone. Bah, c'est pareil sur mon MacBook. L'outil que j'utilise le plus sur mon Mac, c'est probablement mes notes.
Ouais, moi
Parce
aussi, ouais.
que je peux le faire sur mon téléphone, je peux le faire sur mon Mac, je peux me faire des listes. Le jour où ils ont mis les bullet lists là, que je puisse cocher, c'était incroyable. Et voilà. Et en fait, ça me fait ma curation, elle est là en fait. Et donc, c'est
Ça
plutôt
fait
dans mes
ta
notes que je vais
personal
chercher.
knowledge, ouais, ton personal
Ouais.
knowledge
Ah
y est là
ouais.
avec.
Demain, je dois entraîner à LLM, je prends toutes mes notes iCloud, quoi.
C'est vrai. C'est vrai que ça peut être un bon moyen de te faire un petit rag
Bon,
RAG, là. Ouais.
y a deux, trois clés API qui ne devraient pas se retrouver là-dedans, mais, mais on verra, quoi.
Donc, ce qui est intéressant avec ta manière de constituer un peu ton second cerveau, on va appeler ça comme ça, c'est que tu rentres dans le type de veilleur qui est plutôt communautaire. C'est-à-dire, en gros, ce que je vois en ce moment, c'est que tu as souvent deux types de veilleurs. Schématisé, tu as celui qui a plutôt une démarche journalistique, ou en tout cas qui est très média, qui est orienté média, ou qui va suivre des experts, qui va faire une veille par contenu. Ou, voilà. Et puis, tu as un autre type de veilleur qui se dit, finalement, les meilleures infos, elles sont issues des communautés, et si les communautés n'en parlent pas, il n'y a pas de raison de suivre les sujets. Ou en tout cas, ce qui ne remonte pas naturellement, c'est que finalement, il y a un tri naturel qui s'est fait.
En fait, il y a un tri naturel, mais moi, j'aime aller chercher ceux qui ont perdu dans ce tri. Et c'est ça
Ouais.
que j'aime bien avec Product Hunt. C'est-à-dire que tu vas avoir 15 apps, tu en as 5 qui vont performer de dingue, mais ce qui m'intéresse,
Ouais.
c'est les 10 d'en bas. Enfin, les 5
Ouais.
aussi, probablement, mais les 10
Ouais, parce
d'en bas,
que.
c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait, ils ont quand même été sélectionnés.
Ben, ils ont quand même été sélectionnés, ces gens, j'ai envie de
Voilà.
te dire. Ouais.
Mais ils n'ont pas connu le succès à cet endroit-là. Et en fait, je crois
Ouais.
qu'un des plus gros défauts que j'ai, de 12 MVP aussi en règle générale, c'est que on est très bon dans ce qu'on fait, mais on est
Ouais.
très nul en marketing. Et donc, on fait des choses, mais je te jure, c'est très frustrant. On a fait des choses 3 mois avant des très grosses boîtes. C'est juste qu'on n'a pas communiqué dessus. Et quand on arrive et qu'on présente notre solution, les gens nous disent, ah, mais oui, ça existe. Je l'ai vu la semaine dernière chez X, Y, Z. Et t'es super frustré, tu vois. Et tu te dis, bah, t'as encore loupé un coche. Et ça m'arrive, mais enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on est aussi abouti que des solutions que Microsoft peut sortir? Je suis pas sûr. Faut être honnête. Hein. Mais la réalité, c'est que souvent, je pense qu'on est précurseur parce qu'on a plein d'idées smart que les gens n'ont pas vues encore. Et donc, on les développe rapidement, parce que c'est la force aussi du Lean Startup. On les développe rapidement, on les met sur le marché et on communique très mal. Donc, ouais, voilà, c'est très frustrant, quoi. Donc moi, j'aime aller voir les losers des winners, tu vois. C'est genre, si tu regardes les JO, là, quand on va regarder les JO à l'athlétisme, les mecs, les deux derniers qui sont arrivés, quoi, du marathon, bah, c'est quand même des mecs qui ont fait le marathon, quoi, tu vois. Toi, tu l'as pas fait, et il l'a quand
Ouais.
même fait en 2 fois plus rapidement que toi, quoi. Bon, c'est les
Ouais.
losers, mais chapeau, quoi, parce que moi, je l'ai pas fait, quoi.
C'est un bon tip pour détecter des choses intéressantes. Donc, on a parlé de Reddit, on a parlé de Product Hunt dans tes lectures. Tu as d'autres sources que tu as envie de partager, ou c'est principalement tes deux puits de.
Alors, pour ma curiosité, c'est ça. Pour le business, quand même pas mal LinkedIn, mais c'est
Ouais.
fatigant. LinkedIn, c'est fatigant. Parce que t'as vraiment. C'est très.
C'est très
Comment dire?
policé, quoi.
Ouais, voilà, c'est fatigant. Exactement. Tu sors pas beaucoup de matière. Mais il y a des gens que j'aime suivre ou il y a des gens qui commentent sur LinkedIn que j'aime suivre, qui sont très loin de ce que je fais et en même temps pas tant que ça. Je pense à par exemple Jean-Marc Jancovici. Et en fait, à chaque fois qu'il fait une intervention, c'est un peu les punchlines, quoi. Donc tu vas voir et tu trouves intéressant et tu finis par regrouper ça avec les 3-4 interviews que tu as vues de Thinkerview, plus 2-3 produits qui sont passés sur Product Hunt, plus 4-5 posts sur Reddit. Et puis tout ça, tu vois, ça commence à te faire un monde. Et tu te dis, en fait, tu peux interconnecter. Alors oui, c'est bien beau, on va passer tous à l'électrique, mais Jean Covici, lui, il a fait les maths, tu vois. Il a fait les maths derrière et puis il te dit, ça va pas le faire. Et puis sur Thinkerview, tu as une nana qui intervient, je sais plus de son nom, mais qui intervient et qui te dit, les terres rares, en fait, ça va être super compliqué parce que X, Y, Z. Et quand tu creuses, tu as tout le marketing qui te promet qu'on sera tous en véhicule électrique. Tu as la géopolitique qui te dit, on arrête de faire ça. On arrête de faire du charbon, du pétrole et on fait que du nucléaire. Enfin, ça, on l'a pas beaucoup vu, mais dans l'idée, ça peut être ça. Et puis, en fait, quand tu regroupes tout ça, tu te dis, bon, bah, en fait, on est quand même mort. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Va falloir trouver une solution. Et puis, tu ouvres ton Reddit et puis tu tombes sur des mecs qui te disent, bah, nous, on a trouvé un moyen pour que les batteries de véhicules électriques, elles ne durent plus 15 ans, mais 45 ans. Et là, tu te dis, ah, bon, il y a deux, trois mecs quand même qui se grattent la tête parce que financièrement c'est intéressant pour eux, enfin pour les sociétés qui les engagent en tout cas. Et donc, bah peut-être que, effectivement, si maintenant la durée de vie des batteries c'est x3, est-ce qu'on peut refaire les calculs de Jean Covici, tu vois? Et donc, tu vois, il y a des choses comme ça. Et donc, je suis assez pessimiste en bon français, je suis assez pessimiste sur l'avenir. Mais j'ai pas mal de copains. J'ai un copain notamment australien qui est. À l'américaine, it's amazing, blablabla. Toujours super positif. Et en fait, quand on, par exemple, à la sortie de la Gen AI, quand on a commencé à travailler ensemble dessus, je lui ai dit, bah, ça va tuer plein d'emplois, ça va être une galère, etc. Je suis pas sûr que ça soit intelligent. De toute façon, il faut qu'on y aille parce que ça va se transformer, mais c'est vrai qu'il faut qu'on y aille de la bonne manière. Et lui, il m'a présenté un monde incroyable, enfin, sa vision du monde que j'avais pas du tout, tu vois. En me disant, mais en fait, l'IA, demain, ça va peut-être nous permettre de faire des cultures en plein désert, avec très peu d'eau. Et donc, en fait, on va pouvoir nourrir le monde, chose qu'on n'arrivait pas. Enfin, bon, pour nourrir le monde, on est capable de le faire. Mais bref, tout ça pour te dire que lui, il a une vision super positive du monde, qu'on partage les mêmes sources, et qu'il n'a pas le
Techno-optimiste, quoi.
même...
Ouais.
Ouais, et ça aide beaucoup à te dire que finalement, bah, ouais, tu peux faire un enfant et qu'il va pas être en galère dans 30 ans, quoi. Ouais, c'est voilà. Je sais pas, j'ai un peu digressé, mais dans l'idée,
C'est
c'est
hyper
ça. Donc,
intéressant de retrouver un peu tes petits à travers différentes sources. Bah, c'est un peu le luxe qu'on a grâce à cette abondance d'informations. Il y a quand même du bien là-dedans. C'est que on peut croiser tout un tas de choses et se faire son propre avis. En termes de bouquins, t'as un, deux, trois bouquins peut-être qui t'ont plus parlé que d'autres?
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les bouquins qui me racontent de la science en histoire.
Ouais.
Je reformule, c'est le bouquin parfait pour ça, c'est Sapiens.
Ah, c'est génial ça, ouais. Ouais.
J'ai adoré Sapiens parce que c'est pas un roman, c'est pas une étude super poussée où il faut que j'aie un bac plus 8
Ouais.
dans 6 domaines différents.
Ouais.
Et Sapiens, tu vois, je me souviens d'un passage que j'aime beaucoup où à un moment il t'explique comment le blé a proliféré en Europe, enfin dans le monde en règle générale grâce aux humains.
Ouais.
Et cette histoire-là où à la fin il te finit par finalement c'est pas nous qui avons cultivé le blé, c'est le blé qui nous a utilisé. Je trouve ça passionnant. Et donc ce type de science-histoire, j'aime beaucoup. Sapiens, ouais, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Lisez-le, moi c'est un des rares bouquins que j'ai dévoré d'un coup.
Ouais.
Euh,
Vraiment, c'est
et, et ça
vraiment
m'inspire
un
beaucoup.
chouette bouquin, ouais.
Ouais. Et alors tu vois que celui d'après, Homo Deus, qui parle de donc justement l'homme augmenté, les IA, etc., j'ai beaucoup, beaucoup moins aimé.
D'accord. Ouais. Alors je
Mais
sais qu'il
Sapiens,
est, il a
c'était un vrai
adapté,
choc.
il a adapté Sapiens en bande dessinée aussi. Ça a été cité dans l'un des épisodes. Et Sapiens, c'est un bouquin qui revient souvent, qui est souvent cité par les invités. Parce
Mais.
que c'est tellement bien vulgarisé, il y a un fondement scientifique qui est solide.
Et si tu veux, pour être tout à fait honnête, donc j'ai acheté là une version, alors je sais pas si c'est vraiment bande dessinée, mais c'est pour enfants, tu vois, 7-8 ans,
Ouais.
et c'est pas que bande dessinée. Et cette version-là, je le lisais quand il était encore dans le ventre de sa mère à mon fils, tu vois. Et donc je me suis dit, allez, il faut que je te lise Sapiens. Et en fait, c'est les bouquins que j'ai envie de faire lire au gamin. J'ai envie de lire avec lui, tu vois, parce que c'est à la fois une histoire et à la fois notre histoire, quoi. Et je trouve ça. Donc ça serait, ouais, Sapiens, c'est un bouquin
Ouais.
qui m'a blow the mind, quoi. Après, en termes de business, j'en ai deux. Alors forcément, Lean Startup d'Eric Ries. Ça, c'est lui qui m'a quand même pas mal, qui m'a pas mal guidé sur pourquoi cette méthode allait bien. Le fait que Toyota fasse les choses comme ça. Toyota, une marque que je connaissais, mais sans plus. Tu te rends compte qu'en
Ouais.
fait, c'est quand même une super boîte, quoi.
Et c'est toujours autant d'actualité. C'est le fait d'aller. Enfin, le meilleur conseil du monde pour développer sa boîte ou un produit qui consiste à dire parler à vos clients avant de développer quoi que ce soit et parler-leur souvent. Et c'est pas un réflexe qui est ancré encore en 2024. Moi, je vois. C'est toujours quelque chose de contre-intuitif et que. Les organisations font pas
Ouais,
de même. Donc c'est toujours
c'est super
d'actualité ce
frustrant.
bouquin. Ouais.
Ouais, et d'ailleurs, c'est grâce au Lean Startup que 12 MVP a décollé
Ouais.
et a pu travailler avec des gros clients. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois qu'on arrive et qu'on explique la méthode du Lean Startup à une très grosse boîte, ils sont en train de nous dire, mais on n'est pas une startup. Puis finalement, ils se tapent la tête dans les murs et ils se disent, bah ouais, c'est vrai que ça, on ne le fait pas, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, le Lean Startup, c'est vraiment un bouquin qui a pas mal changé ma vision des choses. Et moi, en tant qu'ingénieur, j'étais vraiment dans la solution. Donc en fait, tiens, j'ai une idée, je vais le développer. Ça va être rapide.
Ouais,
Je vais le faire, je vais le mettre, et voilà. Le Lean Startup, le fait de devoir te poser, de discuter avec des gens, de comprendre leurs besoins, déjà, voilà. Donc ça m'a aidé à grandir en tant qu'ingénieur, on va dire. Je te disais tout à l'heure que j'étais nul en communication, marketing, etc. Enfin, je suis nul parce que j'ai pas la discipline de le faire tous les jours. J'ai un problème de discipline, hein, c'est le côté peut-être créatif, mais ouais, j'arrive pas à suivre des plans. C'est aussi peut-être pour ça que je suis entrepreneur. Mais j'arrive pas à suivre, de me dire tous les lundis je fais ça, tous
Ouais.
les mardis je vais faire ça pendant 2 heures. Je sais pas faire. Je sais pas faire. S'il y a un bouquin qui me plaît, bah, je vais prendre l'après-midi, je vais le lire. S'il y a un truc sur Reddit que je trouve incroyable, je peux passer des heures dessus. Donc j'ai pas, voilà, j'essaye de pas me bloquer des programmes dans l'agenda. Mais un bouquin que j'aime beaucoup, c'est Start with Why de Simon Sinek.
Ouais.
Start with Why. Simon Sinek, en fait, j'ai découvert ça sur son TEDx à l'époque, alors qui doit être assez vieux maintenant, 2008, 2009, où il t'explique le Golden Circle. Et en fait, un peu comme Sapiens, tu vois, il te raconte une histoire, en fait. Il te raconte que
Ouais.
finalement, le Golden Circle, c'est comme le cerveau humain, quoi. Et que suivant comment tu pitches aux gens, tu as plus de chances d'avoir leur intention, tu as plus de chances de détecter des choses, etc. Donc, ouais, Start With Why, j'aime beaucoup. Qui est un peu redondant, en vrai, comme bouquin à lire, parce qu'il te bombarde de pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais ouais, c'est pareil, ça c'est un bouquin que j'ai lu en une après-midi, quoi.
Il y a le TEDx qui est bien aussi de Simon Sinek,
Ouais.
une vidéo qui explique, enfin, qui est un peu le support, la bande son de son bouquin, quoi.
Ouais, et vraiment bien. Bah, j'ai commencé par le TEDx, j'ai fini par le bouquin. Et tu vois,
Ouais.
sur LinkedIn, par exemple, Simon Sinek, c'est un des bonhommes que j'aime voir. Il fait des
Oui, bah
vidéos
écoute,
courtes.
ouais. Il donne la pêche, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui donne la pêche. Je suis d'accord sur LinkedIn. Je crois qu'il a commencé vraiment à se mettre sur LinkedIn il y a un an et demi. Avant, il était quand même pas aussi actif. Et là, il fait des podcasts. Il traite de ce qu'il connaît le mieux. Et c'est vrai que tu scrolles son profil tous les jours. Bah, je crois que sa boîte s'appelle le Optimiste quelque chose. Donc, c'est sûr que The Optimist Company. Voilà. Donc, bah oui, c'est Simon Sinek. C'est la dose de pêche qu'il faut tous les te donne la pêche un peu tous les matins. Simon
Ouais, et
Sinek
encore
qui
une
ressemble à ça.
fois, le truc qui me plaît, c'est il te raconte des histoires de société. Tu vois? Il va te dire, ben, je me souviens d'un, alors, je me souviens d'un use case où il t'expliquait pourquoi. Donc Ford à l'époque, essaye de copier Toyota, les usines Toyota, parce que les usines Toyota, ça
Ouais.
marche super bien, etc. Sauf que ce qu'on a appris aux Japonais, c'est dès qu'il y a un problème sur la chaîne de montage, même si ce n'était pas ton job à toi, tu as le
Ouais.
droit de tirer sur une ficelle pour prévenir quelqu'un qui vient voir si effectivement il y a un problème ou pas et réajuster la chaîne de montage. Donc, General Motors ou Ford, je ne sais plus lesquels les deux, essayent de reproduire l'usine Toyota aux US. Ils le font, et en fait, ça ne marche pas parce qu'aucun Américain tire sur la corde, même quand il y a un problème. Et en fait, c'est un problème de culture parce que les Américains, dès qu'ils préviennent qu'il y a un problème, en fait, ils se font engueuler. Et donc, comme ils se font engueuler, bah, ils arrêtent de dire qu'il y a des problèmes, quoi.
Ouais, non, ils aiment pas trop avoir le rôle de Cassandre, quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est ce genre de petite histoire qu'ils racontent régulièrement, que j'aime beaucoup, parce que y a plein de use cases où tu te dis, ouais, c'est incroyable. Tu sais, il y a des fois, tu te dis, les choses tournent super bien, jusqu'au moment où il y a un gros problème. Et quand il y a un gros problème, tu te dis, bon, attends, quand même, on est français ou je ne sais quoi, ça va quand même bien se passer, tu vois. Eh ben non. Eh ben non. Donc c'est et une fois que tu sais ça, tu vas aller creuser, tu vois, tu vas aller comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Donc tu as des gens sur tiens, tu vois, l'exemple concret que j'ai en tête, c'est Sanofi qui a pas réussi à sortir un vaccin pour le Covid-19, tu vois. Alors que plein de labos dans le monde a réussi, Sanofi, blablabla, etc. Et en fait, quand tu commences à creuser le pourquoi, mais tu comprends que c'est culturel en fait. C'était pas qu'ils avaient des chercheurs plus bêtes que les autres, c'était pas qu'ils avaient moins de pognon que les autres. C'était un problème culturel. Et c'est ça sur lequel je me bats au quotidien avec les grands comptes, pour les aider à changer de process, à changer de manière d'être pour justement appliquer le Lean Startup au mieux, quoi. Et tu as des grands comptes qui me laissent faire. Il y a des grands comptes, alors grands comptes ou on va dire très très grosses PME, pour moi c'est enfin, ouais, c'est ETI du coup, qui font plus de 1,5 milliard mais qui est toujours pas un grand compte, tu vois. J'ai des clients comme ça qui nous ont laissé carte blanche. Et puis j'ai des grands comptes où tu vas te dire bah, jamais on va pouvoir innover avec eux, jamais on va pouvoir travailler correctement avec eux, et qui en fait dédient des gens à suivre notre méthode. Ça, c'est trop cool. Je l'avais pas, tu vois, au début. Je me battais avec les épaules, avec les poings, pour dire aux gens qu'il fallait absolument faire des lean startups comme ça, et puis c'était mal fait, et puis c'était pas agile, c'était moitié agile, et puis c'était agile fait par un grand cabinet de conseil, donc c'était agile. Tant que ça vendait des jours, quoi. Et finalement, j'ai de plus en plus de grands comptes où j'étais très surpris qui te laissent faire des choses parce qu'ils estiment que tu es expert dans ça et que c'est ça qu'il leur faut. Et pour en citer qu'un seul, c'est du coup, c'est pas vraiment privé, pour le coup, c'est la Marine nationale. Tu vois, j'aurais pas dit que la Marine nationale, les mecs nous laisseraient faire des trucs lean. C'est pas les premiers dans ma liste, quoi. Et pourtant, on a fait des choses avec eux et ça s'est super bien passé, quoi. Donc voilà, bah, bref, donc
Qu'est-ce
ça
que tu
c'était.
conseillerais, qu'est-ce que tu conseillerais à un grand compte justement qui veut plus innover, mais qui a peur de mal itérer avec ses clients ou de mal appliquer cette méthode? Parce que, en fait, toi, ta spécialité, c'est le Lean Startup et c'est l'agilité. Mais finalement, ces grosses structures, elles ont toujours très peur d'initier des conversations avec les clients parce que elles ont peur de l'image qu'elles donnent. Même dans un POC, même dans un environnement agile, c'est très compliqué pour elles de lâcher prise un peu et de se dire, OK, on a un bac à sable, on peut se tromper pendant 3 mois. Comment tu les rassurerais, en fait?
Déjà, j'ai arrêté de vendre de l'innovation. Parce que vendre de l'innovation, ça veut dire nouveau sujet un peu moisi sur la table des DSI. Un moment, tu vois, si tu veux, à un moment donné, tu fais le sujet. Le truc fonctionne bien. Puis tu arrives à la DSI, tu dis, voilà, faut qu'on scale ce truc-là. C'est la panique côté DSI. Voilà. Donc en fait, j'ai arrêté de vendre de l'innovation. Moi, je ne vends pas de l'innovation. Moi, 12 MVP, on est une team qui craque les problèmes. C'est ça notre spécialité. On craque rapidement les problèmes. Donc, on identifie le vrai problème et on le craque. Et donc, ce n'est pas obligé d'être un problème innovant. Ce n'est pas obligé que ça soit de l'innovation. Du coup, ça m'a ouvert plus de portes. Et finalement, à chaque fois, on innove. C'est tout. C'est la manière de craquer le problème, c'est d'innover, tu vois. C'est de revoir des process, c'est de craquer, c'est de faire en sorte d'utiliser telle plateforme plutôt qu'une autre, etc. Donc, en fait, les clients, ils achètent plus de l'innovation, mais ils innovent avec nous. C'est un peu ma manière, tu vois, c'est mon cheval de Troie, quoi. Donc nous, on craque des problèmes, et après, surtout, on le craque en co-construction. C'est-à-dire que je ne vais pas trop le craquer dans mon coin, je vais le craquer avec le client.
Et donc, et ça, le ça client... leur fait pas peur? Ça t'as pas de la rétention de la part de tes clients en disant, oh là, je vais pas te laisser parler à mes clients comme ça direct, falloir que. Et tu vois pas une certaine appréhension
Franchement, ça dépend beaucoup des sujets, mais non, de moins en moins. On l'avait au début. On l'avait au début en 2013, 2014. Ouais, ça c'était un peu compliqué. Là maintenant, on l'a plus. On l'a plus parce que demain, je te dis une bêtise, mais demain on veut faire de l'innovation chez Pampers.
Ouais.
Et ben c'est il y a 15 000 marques de couches un peu bobo qui est sortie.
Ouais.
Ça va de June en passant par Tidou, etc. Donc demain, tu peux lancer Fake It Until You Make It. Toi. Tu peux lancer ta super nouvelle couche, faire le truc, faire tes expérimentations. Et puis finalement, ça s'appelle de l'intrapreneuriat, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est monter une boîte pour un grand groupe jusqu'à ce que le grand groupe se dise « Ah, en fait, Pampers, effectivement, si on faisait cette gamme de produits plutôt qu'une autre, ça serait mieux, quoi. » Bah ok, t'as eu mes learnings quoi. Si demain j'avais dû lancer une boîte de couches, j'aurais fait comme ça. Donc cette approche là, je vais rarement voir le client en disant pour Pampers on fait ça, tu vois. Non, c'est quoi ton problème en fait, c'est quoi ton problème avec ton gamin et ses couches, ouais. Et y a plein de choses où les clients te disent mais j'ai pas de problème, et toi t'es payé pour innover, et c'est là tu vois le problème des grands groupes qui te disent l'innovation, j'y crois pas parce que en fait, ils essayent d'innover quelque chose où il n'y a pas besoin d'être innovant, quoi. Il y a une fourchette, ça marche depuis la nuit des temps, bah, on garde la fourchette, quoi. On va pas m'inventer un nouveau truc, quoi. Ouais. Et tu peux faire des fourchettes plus belles, des fourchettes en argent, des fourchettes, ouais, pour bébés, des fourchettes. À la limite, si la dernière innovation, c'est la fourchette pour les gens qui sont malades et qui tremblent de Parkinson, tu vois. Donc la fourchette qui déborde pas, ok. Bon, je crois que c'est une cuillère d'ailleurs. Mais bon, dans l'idée, c'est que tu n'as pas de grandes innovations à aller chercher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de les aider à mieux faire leur boulot. Et c'est là où il y a de l'innovation. C'est-à-dire que parfois, on a eu la chance, nous, alors qu'on est plutôt dans le digital, d'aller visiter pas mal d'usines et de faire le tour des usines, de faire le tour des entrepôts, de voir les process des gens, etc. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? En fait, quand je fais une tournée d'usine ou une tournée d'entrepôt, je suis constamment en train de dire, mais pourquoi? 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 Et les gens se posent la question et à un moment donné, ils se disent, mais bah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, je vais me renseigner. Et pourquoi tu fais ça? Bah, parce qu'on n'y avait pas pensé. Mais du coup, ce n'est pas pratique parce que X, Y, Z. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu identifies les problèmes et que tu les aides à craquer. Et donc, encore une fois, pas d'affiliation du tout avec Pampers, mais si demain, on doit aller aider Pampers, j'irai plutôt voir leur process. Ouais. Je n'irai pas voir de refaire une nouvelle couche. Je ne suis pas sûr que ça soit... Tu vois. Important quoi. Surtout qu'en plus dans les produits d'hygiène on est en train de revenir à une tu vois ma conjointe c'est pas de Javel à la maison, alors que ma mère c'était Javel partout, ma conjointe c'est pas de Javel à la maison, c'est tout avec du vinaigre blanc, alors ça sent toujours pas bon, mais dans l'idée c'est que ça marche, et ça marche pour tout, tu vois. Donc on est en train aussi de revenir dans un mode où on
essaie. Où l'innovation n'est pas forcément la clé à tous les problèmes.
Ouais. On n'a pas besoin d'innover. Il y a des problèmes, il y en a bien assez, tu n'as pas besoin d'innover pour tout, quoi. Donc en fait, nous, on ne vend pas de l'innovation, on craque les problèmes et on identifie les problèmes pour les gens. On les aide à identifier les bons problèmes.
Alors, ta stack d'outils, justement, pour craquer tous ces problèmes, moi, j'aime bien connaître un peu les apps qu'utilisent les invités et surtout les apps avec les abonnements payants que les invités ont pris. Donc, tu payes quoi, toi? Tu payes quoi dans ta stack, dans ton sac d'outils là?
J'en paye pas beaucoup, mais je suis pas un grand dépensier d'outils. Et pourtant, tu vois, Product Hunt, je passe ma vie dessus, etc. Mais je crois que l'outil que je paye le plus cher, ça doit être Taplio.
Taplio?
C'est fait par des copains, justement. Bah, c'est Thibaut, là, celui qui était sur ta Product Hunt avec Typeframe, là. Taplio, T-A-P-L-I-O. En gros, d'accord, c'est un outil qui te permet de gérer tes posts LinkedIn, qui te permet d'identifier des influenceurs, des potentiels prospects. Ils ont été rachetés par Lemlist il y a quelques temps.
Ok.
Et donc, et en plus, pour être tout à fait honnête, je l'utilise beaucoup parce que voilà, Thomas, Tom Jackson, là. Et Thibaut, c'est des copains. J'aime aider les copains. Donc à la base, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un petit peu un outil comme ça pour eux. Et puis finalement, en fait, leur outil est super bien. Il est incroyable. Mais c'est ce que je te disais, donc c'est de la programmation de posts LinkedIn, c'est de l'écriture potentielle de posts LinkedIn, de réponses. Enfin bref, il est super. Super pour faire du personal branding. Le problème, c'est que bah, il faut une discipline, quoi. Il faut t'y mettre. Et c'est là où je, tu vois. Donc là, je vais probablement engager quelqu'un pour utiliser Taplio pour mon compte LinkedIn, tu vois. J'en suis venu à ça, quoi. Et puis les deux autres outils que je paye, parce qu'après c'est bon, après c'est des trucs de compta et tout, donc on s'en fiche. Mais c'est Canva.
Ah, Canva, c'est la vie.
Canva, c'est la vie. T'es obligé de l'avoir. C'est la vie pour faire des belles slides, en fait.
Même pour faire de la vidéo et de l'édition vidéo maintenant, c'est.
J'ai pas trouvé ça super efficace pour la vidéo, mais pour les slides, je l'utilise tout le temps. Ce qui est un peu bizarre, mais ça, encore une fois, c'est mon pote australien qui nous a mis dessus, qui a fait les premières slides sur Canva, que j'ai trouvé très belles. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pratique, arrête un peu Google Drive, arrête un peu PowerPoint.
Mais alors, c'est arrivé dans la sphère mainstream Canva de manière très forte depuis 1 ou 2 ans. Ma femme est instite et c'est le genre d'outils Canva qui existe quand même depuis 5 ans, quoi. Depuis 1 ou 2 ans, ils se sont mis vraiment sur un usage qui arrive même chez les particuliers ou sur d'autres professions. Mais ça arrive très très fort, quoi. Aujourd'hui, je le vois utilisé par beaucoup beaucoup de monde, quoi, Canva.
Franchement, il est très bon. Il y a 2-3 trucs qui peuvent m'embêter parfois, mais ouais, il est très bon. Très vite, tu fais quelque chose de joli.
Ouais.
Et en fait, ce que j'ai compris, c'est vraiment ça, c'est que le papier cadeau, il est aussi important que le cadeau, quoi. Et que nous, on était très mauvais en papier cadeau et plutôt bon en cadeau. Donc,
bien résumé, ouais.
Canva, ça nous aidait à faire des beaux papiers cadeaux aussi.
Ok.
Et le dernier, c'est au quotidien, pour le coup, c'est ChatGPT. Hein.
Eh oui, t'en as beau.
ChatGPT en premium. Heavy user de ChatGPT. Hein. J'utilise tout le temps pour tout.
Ouais.
Ce qui me permet aussi de détecter des choses, des idées. J'utilise aussi bien pour écrire un mail que pour me donner des idées sur des sujets, que pour m'expliquer en eLife5 des choses que j'ai pas compris.
Tu l'utilises, toi, pour dans ton agence, pour aider tes clients? Est-ce que tu commences à utiliser ChatGPT comme une autre source, un autre cerveau ou plusieurs autres cerveaux?
Pas directement ChatGPT parce qu'il est nul pour ça, mais on utilise OpenAI derrière, donc en API. Et ouais, on a typiquement un des outils qu'on a, il s'appelle Brainstorm.
D'accord.
Et c'est un outil où, en fait, tu peux inviter 4-5 IA différentes avec toi dans un meeting. Et on l'a configuré de manière à ce que tu donnes un sujet de meeting. Je te dis une bêtise, mais je sais pas, un vélo électrique sans batterie, tu vois, un truc un peu chiant. Et puis t'invites des experts, t'invites un expert mécano, t'invites un expert marketing, etc. T'invites différents experts. Et puis ils viennent te challenger dans notre outil. Et en fait, j'aime beaucoup cet outil-là parce que les IA, déjà, elles ne parlent pas toutes seules. Donc, elles te disent c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Elles te donnent leur point de vue et elles te challenge. Elles te posent une question. Et en fait, quand elles te posent une question, toi, tu peux lui donner un peu plus de contexte. Donc, tu démarres une vraie conversation et à tout moment, tu as un autre expert qui intervient et qui dit non, mais attends, parce que moi, je suis spécialisé en marketing et c'est vrai que ton truc là, c'est pas terrible parce que X, Y, Z, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup cet outil-là pour ça, mais ça reste de la Gen AI. Donc, avec des profils de base sur ChatGPT, les profils ne sont pas entraînés et tu as juste l'impression de discuter avec un mauvais cabinet de conseil, quoi. Alors que l'idée sur notre outil, c'est qu'on a configuré des bonhommes, qu'on les a fine-tunés et donc qu'ils connaissent beaucoup plus de choses, quoi.
Moi, ce que j'avais envie de... Alors toi, tu m'as montré en fait cet outil-là.
Il y a longtemps.
Il y a quelques mois, j'étais assez bluffé parce que j'ai l'impression de voir un peu le futur du conseil. C'est-à-dire que ce que tu fais toi à ta propre échelle pour ton agence, d'avoir développé cet outil-là qui te permet ou qui permet à ton client d'être accompagné, c'est un peu du conseil outillé, quoi. C'est-à-dire en gros, tu l'accompagnes avec un outil pour délivrer de l'expertise. Ce que tu,
ce que tu fais toi à ton échelle de, avec ton agence, c'est probablement ce que feront les gros cabinets de conseil dans quelques années, c'est-à-dire non pas de proposer de l'intelligence humaine, mais de proposer de craquer un problème entre le consultant, ses avatars et l'intelligence du client lui-même. Quoi. Il va y avoir une espèce de dialogue à trois qui va... Et ce que tu m'as montré, vraiment, je crois vraiment potentiellement, l'avenir du consulting peut être fait de cette manière-là, où chaque cabinet va pouvoir développer des experts IA hyper fine-tunés, avec des prompts très très forts, avec derrière des bases de connaissances énormes, de niches qui vont affiner, qui seront propres à chaque cabinet finalement. Et finalement, vendre du consulting, ça sera non seulement vendre l'intelligence humaine, mais ça sera aussi vendre la capacité d'interagir avec ces GPT, comme on dit.
Ouais.
Et je te trouve très, très, très en avance par rapport à tout ça, quoi.
Bah, tu vois,
sachant qu'évidemment, je connais le futur, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais, c'est pour ça, merci. Tu pourrais me dire si on a fait du meilleur marketing qu'avant. Parce que tu vois, ça fait partie des problèmes qu'on a. C'est-à-dire que, genre, super idée que tu as vue il y a plusieurs mois, mais qui existait déjà plusieurs mois en avance. Donc, il y a au moins, oui. Je sais pas, on avait dû le faire en juin dernier, ce truc-là. Et pour autant, on l'utilise pendant les workshops avec nos clients. Nos clients se disent « Ah, mais c'est super cool », etc. Mais j'arrive pas à reach un market de fou. Alors qu'effectivement, c'est le futur. En fait, demain, c'est sûr que des gros cabinets de conseil, ils auront leur propre SMI, là, le Subject Matter Expert, des experts en la matière, qui connaissent tout sur tout, toute la boîte, tous leurs clients, etc. Sauf qu'il y a quand même un moment donné, on a besoin de l'humain encore aujourd'hui. En termes de qualité d'IA, elle va faire 80% du boulot pour toi, donc tu as encore besoin des 20 derniers pourcents. Et ces 20 derniers pourcents, tu peux aller chercher chez les seniors. Dans 20 ans, peut-être que l'IA aura encore besoin d'une assistance humaine, probablement d'ailleurs, j'en suis quasi sûr de ça. Pourtant, ton senior, eh ben, il sera à la retraite, okay, et ton junior, il n'aura pas été formé correctement puisqu'il n'aura pas vécu les problèmes, vu que c'était les IA qui faisaient son job à l'époque. Et je pense qu'il y a un vrai... Il va y avoir une... Les cabinets de conseil vont à la fois essayer de développer leur SMI et se battre pour pas trop le mettre dans les mains des clients parce que c'est simplement une perte de chiffres futurs. Donc, si tu as envie de gagner à court terme, bah, tu le fais. Si tu as envie de gagner à long terme, tu essayes de pas release ce truc-là, quoi. Donc, je sais pas trop encore comment ils vont réagir.
T'es sur le haut de la gaussienne, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'es trop en avance, quoi, tu vois. Il faut attendre un petit peu plus.
Peut-être, c'est un peu l'idée. Mais je sais pas. En tout cas, je pense que le futur du conseil, c'est forcément des consultants mieux équipés. Et donc, équipés avec des outils IA, c'est sûr, tu vois. Maintenant, comment on fait pour éviter de perdre un peu la connaissance parce que l'apprentissage, le fait d'être un senior, c'est pas parce que tu as passé 20 ans dans une boîte. Le fait d'être senior, c'est parce que tu as acquis plein de sujets différents, que tu as craqué plein de problèmes différents, que tu as identifié des solutions différentes, etc. Et donc ça, si c'est l'IA qui fait 90% de ce travail-là, ben, je suis pas sûr que tu t'apportes tant de choses que ça. Et pour beaucoup de clients, peut-être que les 90% que fournit l'IA sera suffisant, tu vois. Et donc, ils se passeront complètement du cabinet de conseil.
Ouais.
Ça, c'est pas du tout impossible. Et les éditeurs, à côté, vont se battre pour, eux, pousser à fond ça. Donc, Microsoft, ils n'ont pas de cabinet de conseil, ou quand ils en ont, c'est minime dans leur chiffre d'affaires. Salesforce, ils n'ont pas de cabinet de conseil, ou c'est pareil, quand ils en ont un, c'est minime. Il ouvre, il meurt. Bref, tous les 5 ans, c'est un peu comme ça. Mais dans la réalité, c'est qu'eux, ils vont pousser pour qu'il y ait moins de conseils, quoi. Donc demain, ils vont te vendre leur IA et tu vas lui dire sur Salesforce, je veux que tu fasses ça, j'ai besoin que tu me sortes ces chiffres-là, et puis le truc va le faire tout seul. J'ai besoin que tu me crées un rapport comme ça, et Einstein GPT va finir par le faire tout seul. Et donc là, tu n'auras plus tous les consultants qui sont dans les cabinets spécialisés pour les Salesforce, pour les SAP, pour ce genre de choses-là. Il y en a 90% qui vont disparaître. Il va vraiment y avoir la guerre éditeur-cabinet de conseil, qui était d'abord plutôt l'inverse, c'est-à-dire les cabinets de conseil étaient contents d'avoir un, des éditeurs pour pouvoir vendre des solutions, tu vois. Ensuite, les éditeurs se sont dit, mais en fait, on est aussi fort que les cabinets de conseil. Donc là, c'est l'équilibrage en ce moment, tu vois. Entre Salesforce qui dit, je t'envoie du business, et le cabinet de conseil qui dit, bah, moi aussi. Donc en fait, on est copains. Jusqu'au moment où l'éditeur, il va reprendre le truc. En fait, j'ai plus besoin de t'envoyer du business parce que je facture mon SMI à 3 000 euros par mois à ton client final, tu vois, quand toi, tu lui facturais 30 000. Donc, merci, au revoir, quoi.
Ouais, il va y avoir des overlaps et des merges dans les prestations, c'est ce que tu dis, quoi. Bon, c'est hyper intéressant comme prédiction. On va terminer l'épisode sur un peu tes actus du moment. Est-ce que tu as deux, trois choses à annoncer? C'est quoi tes projets 2024?
2024, tu avais vu Brainstorm, je ne suis pas sûr que tu aies vu l'autre outil qu'on est en train de développer. On est en train de faire un SaaS qu'on a fait pour nous à la base,
D'accord, ok.
qui te permet, tu rentres un problème, un
Ouais.
contexte, et on va te générer un persona, un lean canvas, un plan marketing, un SWOT, un business model canvas, un diagramme de Venn pour la désirabilité, ce genre de choses-là. Et donc, en fait, cet outil-là qu'on a appelé InnoMaker, c'est un outil à la base qu'on a fait pour nous. Et finalement, à chaque fois qu'on le montre, comme un peu brainstorm, les clients se disent, mais moi aussi, je le veux. Donc, on est en train de le transformer. On a déjà deux clients. Et l'idée, c'est de faire exploser ça pour les
Donc,
traiter en cours plus rapidement.
tu es dirigé par des questions dont tu discutes avec l'IA et ça te génère au final un framework, quoi, tout rempli, type Value Proposition Canva, type.
Ouais, exactement. Et tout ça en se basant aussi sur les données data, enfin sur les data des clients.
Ok.
Et ça avec des experts aussi en la matière. C'est-à-dire que demain, tu vas me dire, bah, je veux que tu entraînes un expert CFO qui réagit
Ouais.
comme notre CFO à nous, tu vois. Ce genre de choses-là. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer la prise de décision sur les innovations. Ok? Là, je discutais avec une boîte. Donc c'est une très grosse boîte, mais petite direction de l'innovation. Ils sont 5. Ils traitent en moyenne par an une dizaine d'idées. C'est ce qu'ils peuvent faire, quoi. Nous, on se dit qu'avec notre outil, ils vont pouvoir en traiter pas loin de 200 par an. Et donc, quand tu as 200 idées différentes, 200 dans l'innovation, etc., ben, en fait, tu peux te tromper parce que même si tu gagnes une fois sur 5, bah, tu viens de générer 40 idées qui apportent vraiment de la valeur, quoi, pour la boîte. Donc on est un accélérateur d'innovation, même si ce n'est pas l'innovation qu'on vend, du coup, parce qu'on te vend de craquer le problème,
Ouais, à la source, ouais.
quoi. Ouais. Et pour l'instant, tu vois, c'est dédié un peu aux directions de l'innovation, mais l'idée, c'est que ça retombe dans les BU. En 2024, c'est le but, c'est que ça retombe dans les BU et surtout que ça retombe dans les mains on va dire, du dernier échelon des boîtes. Pour te dire, j'en sais rien, je prends dans le retail, et excusez-moi si ce n'est pas le cas, je connais pas très bien, mais on va dire que le dernier échelon, c'est le vendeur à la fin en boutique. Ce vendeur-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse remonter des infos sans qu'il ait à créer un lean canvas, à faire un business model canvas. Ce n'est pas son job, tu vois. Lui, tout ce qu'il va te dire, c'est que quand il fait ça, il se passe ça, et donc ce n'est pas cool. Il a eu une idée, il pense que ça serait bien. Donne-moi tout ça. Remplis-le dans notre logiciel, on va te générer tout ce qu'il faut et la direction d'innovation, eux, vont lire des solutions et des problèmes dont ils n'avaient même pas conscience. Donc en fait, c'est un peu la boîte à idées nouvelle génération. Le problème de la boîte à idées, c'était que les idées étaient un peu moisies parce que les gens ne savaient pas spécifier leurs problèmes ou ne savaient pas les formuler correctement, etc. Avec notre solution, la boîte à idées, elle devient, à mon avis, très, très importante, très percutante. Ouais.
Et comment on a plus de détails sur cette offre ou les autres? Il faut te contacter sur LinkedIn, faut aller sur le site Toile MVP.
Ouais, plutôt sur LinkedIn, on est en train de refaire le site. On va voir pour le sortir peut-être avant à la publication de ce podcast. Donc, vous irez voir. Mais non, c'est plutôt sur LinkedIn. Ouais. Nous,
Ok.
là, on est encore dans la phase de co-construction. Donc, on est en train
Ok.
d'identifier avec les clients ce qu'on fait, ce dont ils ont
Ouais.
besoin dans leur process, etc. C'est très lean startup, hein, donc l'approche, c'est de le faire en itération. Le problème de pousser un produit comme ça directement sur un LinkedIn, le risque c'est que ça ne matche pas avec les besoins du prospect en face et qu'il ne comprenne pas et qu'on le perde versus une discussion de 10 minutes et on règle.
Et d'affiner, oui. Bien sûr.
Donc, approche lead. Mais là, c'est encore une fois co-construction. C'est plutôt nos clients qui nous renvoient d'autres clients.
Ouais.
Et ils ouvrent des portes comme ça.
Et vous affinez
ça.
Le modèle comme ça. Ok.
Ouais. Et les directions d'innovation, en fait, elles ont toutes le même problème. Elles sont souvent peu nombreuses. Beaucoup de sujets à traiter. Une difficulté à identifier forcément des intrapreneurs, des entrepreneurs pour les aider à faire ça.
Ouais.
Et le coût aussi. Parce que ce n'est pas des business units coût, avec ROI.
Ouais, tout à fait. Bon, bah, écoute, super. C'était des sources hyper intéressantes par rapport à ton profil. Donc, vraiment merci, Fred. On te retrouve donc sur LinkedIn. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur un nouvel épisode de TechSource.
Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée.